Chapitre 23. Beaucoup d'usages. Vous m'avez accusé d'arrogance dans ma quête. Vous m'avez accusé de garder rancune envers Raizé et Bavadine. Ces deux accusations sont exactes. Kaladin se leva dans le fond du chariot et balaya du regard le paysage à l'extérieur du camp tandis que Rock et Teft mettaient en œuvre son plan, ou ce qui en tenait lieu. Chez lui, l'air était plus sec. Si l'on sortait la veille d'une tempête majeure, tout semblait désolé. Après les orages, les plantes se retiraient rapidement dans leurs coquilles, troncs et cachettes pour conserver l'eau. Mais ici, dans ce climat plus humide, elles s'attardaient. De nombreux boutons de roche ne se retiraient jamais complètement dans leurs coquilles. Les carrés d'herbe étaient chose fréquente. Les arbres que Sadea s'abattait se concentraient dans une forêt au nord des camps de guerre, mais quelques spécimens isolés poussaient dans cette plaine. Ils étaient énormes, avec de larges troncs, poussaient inclinés vers l'ouest, et leurs épaisses racines, pareilles à des doigts, s'enfonçaient dans la pierre, fendant et brisant le sol autour d'elles au fil des ans. Kaladin bondit au bas du chariot. Sa tâche consistait à hisser des pierres et à les placer dans le fond du véhicule. Les autres hommes de pont les lui apportaient, les entassant tout près. Ils travaillaient à travers la vaste plaine, se frayant un chemin à travers les boutons de roche, les carrés d'herbe et les bottes de mauvaises herbes qui pointaient entre les rochers. Elles poussaient abondamment du côté ouest. Prêtes à se retirer dans l'ombre de leurs rochers, si une tempête majeure approchait. L'effet produit était curieux, comme si chaque rocher était la tête d'un vieil homme, derrière les oreilles duquel poussaient des touffes de cheveux verts et bruns. Ces touffes étaient extrêmement importantes, car parmi elles se cachaient de minces roseaux, connus sous le nom de bosselines. Leurs tiges rigides étaient coiffées de frondes délicates qui pouvaient se rétracter à l'intérieur. Les tiges elles-mêmes étaient immobiles, mais l'abri des roches les protégeait. Certaines se feraient arracher lors de chaque tempête, peut-être pour se fixer à un nouvel emplacement une fois les vents apaisés. Kaladin hissa un rocher, le posa sur le fond du chariot et le fit rouler près de plusieurs autres. Le dessous du rocher était humide de lichen et de crémons. Sans être rare pour autant, la bosseline n'était pas aussi commune que d'autres mauvaises herbes. Une brève description avait permis à Rock et à Teft d'en trouver facilement. Ils avaient toutefois nettement progressé lorsque Syl s'était jointe à la chasse. Kaladin regarda furtivement sur le côté, tout en descendant chercher une autre pierre. Syl tournait autour de lui, silhouette presque invisible qui menait Rock d'un banc de roseaux au suivant. Teft ne comprenait pas comment le grand manche-corne parvenait invariablement à en trouver plus que lui. Mais Kaladin n'avait guère envie de le lui expliquer. Il ne comprenait toujours pas pourquoi Rock voyait Syl. Le manche-corne affirmait être né comme ça. Deux hommes de pont approchèrent, le jeune Dunny et Jack sans oreille, transportant une grosse pierre dans un traîneau de bois. Ils étaient en nage. Lorsqu'ils atteignirent le chariot, Kaladin s'épousseta les mains et les aida à hisser le rocher. Jack sans oreille lui lança un regard noir en marmonnant tout bas. « Joli spécimen !» commenta Kaladin en désignant la pierre. « Beau travail !» Jax lui lança un nouveau regard mauvais et s'éloigna d'un pas raide. Denis regarda Kaladin en haussant les épaules, puis se précipita à la suite de son camarade. Comme Rock l'avait deviné, affecter l'équipe à la corvée de ramassage de pierres n'avait en rien amélioré la popularité de Kaladin. Mais il fallait que ce soit fait. C'était la seule façon d'aider Leighton et les autres blessés. Après le départ de Jax et de Dunny, Kaladin grimpa nonchalamment dans le chariot et s'y agenouilla, repoussant une bâche et découvrant une grosse pile de tiges de bosseline. Elles étaient à peu près aussi longues qu'un avant-bras humain. Il fit semblant de déplacer des pierres dans le fond du chariot, mais en réalité, il lia une grosse double poignée de roseaux en fagots à l'aide de lianes de boutons de roche. Il laissa tomber le fagot par-dessus le côté du chariot. Le chauffeur était parti bavarder avec son collègue de l'autre chariot. Kaladin se retrouvait donc seul, à l'exception du Chul assis dans sa carapace rocheuse, qui regardait le soleil de ses yeux de crustacé en boutons de bottine. Kaladin bondit au bas du chariot et posa un autre rocher dans le fond. Puis il s'agenouilla comme pour tirer une grosse pierre de sous le chariot. Mais, de ses mains à droite, il fixa les roseaux en place sous le fond, juste à côté des deux autres fagots. Le chariot possédait un large espace ouvert à côté de l'axe, et une cheville en bois y fournissait un endroit parfait où installer les fagots. J'ai zérézé face que personne ne pense à inspecter le dessous lorsqu'on regagnera le camp. L'apothicaire avait affirmé que chaque tige fournissait une goutte. De combien de roseaux Kaladin aurait-il besoin? Il lui semblait connaître la réponse à cette question sans même devoir beaucoup y réfléchir. Il aurait besoin d'autant de gouttes que possible. Il ressortit et hissa une nouvelle pierre dans le chariot. Rock approchait. Le grand manche-corne à la peau brune portait une pierre allongée qui aurait été trop grosse pour que la plupart des hommes de pont la déplacent seule. Rock s'avançait lentement d'un pas traînant, avec Syl voltigeant autour de sa tête et atterrissant parfois sur la pierre pour le regarder. Kaladin descendit et le rejoignit en courant sur le sol irrégulier pour l'aider. Rock le remercia d'un signe de tête. Ensemble, ils hissèrent la pierre vers le chariot et la posèrent dans le fond. Rock s'essuya le front, tournant le dos à Kaladin. Une poignée de roseaux dépassait de sa poche. Kaladin s'en empara et les fourra sous la bâche.
« Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un remarque la chose qu'on fait ?»
demanda Rock sur un ton désinvolte. « On expliquera que je suis vanier, » répondit Kaladin, « et que je comptais me fabriquer un chapeau pour me protéger du soleil. » Rock ricana. « Je vais peut-être le faire, » ajouta Kaladin en s'essuyant le front. « Ce serait agréable par cette chaleur. Mais il vaut mieux que personne ne nous voie. Le simple fait qu'on veuille ces roseaux suffirait sans doute à les convaincre de nous les refuser.
« Cette chose est vraie, » dit Rock, qui s'étira et leva les yeux lorsque Syl passa devant lui. « Les pics me manquent. »
Syl désigna quelque chose et Rock baissa la tête en signe de déférence avant de la suivre. Toutefois, lorsqu'elle l'eut entraînée dans la bonne direction, elle rejoignit Kaladin, flottant dans l'air sous forme de ruban, puis retomba sur le bord du chariot et reprit sa forme féminine, avec sa robe voltant tout autour d'elle.
« Moi, déclara-t-elle en levant un doigt, je l'aime beaucoup. »«
Qui ça, Rock ?»«
Oui, » dit-elle en croisant les bras. « Il est respectueux, contrairement aux autres. »«
Très bien, » dit Kaladin tout en hissant une autre pierre dans le chariot. « Tu n'as qu'à le suivre au lieu de m'ennuyer. » Il s'efforça de ne pas laisser transparaître son inquiétude dans sa voix. Il s'était habitué à sa compagnie. Elle renifla.
« Je ne peux pas le suivre. Il est trop respectueux. »«
Tu viens de me dire que ça te plaisait. »«
En effet, mais je déteste ça en même temps. »
Elle avait parlé avec une franchise toute naturelle, comme si la contradiction lui échappait. Elle soupira et s'assit sur le bord du chariot.
Je l'ai conduit à un tas de crottins de chules pour lui faire une farce. Il ne m'a même pas crié dessus. Il l'a simplement regardé comme s'il y cherchait un sens secret.
Elle grimaça.
Ce n'est pas normal.
Je crois que les manches-cornes doivent vénérer les sprennes ou quelque chose comme ça, répondit Kaladin en s'essuyant le front.
C'est idiot.
Les gens croient des choses beaucoup plus idiotes. D'une certaine façon, j'imagine qu'il y a une logique à vénérer les sprennes. Vous êtes effectivement étrange et magique.
Je ne suis pas étrange, s'exclama-t-elle en se levant. Je suis magnifique et d'une clarté exemplaire.
Elle posa fermement les mains sur ses hanches, mais il vit à son expression qu'elle n'était pas vraiment fâchée. Elle semblait changer d'heure en heure, devenir de plus en plus... De plus en plus quoi? Pas exactement humaine. Plus individuelle. Plus intelligente. Syl se tut lorsqu'un autre homme de pont, Natam, approcha. L'homme au visage allongé portait une pierre plus petite, s'efforçant visiblement de ne pas s'épuiser.
Hé, hey, Natam! Dit Kaladin en tendant les mains pour saisir la pierre. Comment va le travail?
Natam haussa les épaules.
« Vous ne m'avez pas dit que vous aviez été fermier ?»
Natam se reposa près du chariot, ignorant Kaladin. Kaladin lâcha la pierre et la mit en place.
Je suis désolé de vous obliger à travailler comme ça, mais nous avons besoin de nous attirer les bonnes grâces de Gaz et des autres équipes de pont. » Natam ne répondit pas. « Ça nous aidera à rester en vie, » ajouta Kaladin. « Faites-moi confiance. » Natam se contenta d'un nouveau haussement d'épaule, puis s'éloigna. Kaladin soupira. « Ce serait tellement plus facile si je pouvais accuser Gaz de ce changement. »«
Ce ne serait pas très honnête, » dit Syl, outragé.
« Pourquoi est-ce que tu tiens tellement à l'honnêteté ?»«
J'y tiens, c'est tout. »«
Ah oui ?» dit Kaladin, qui laissa échapper un grognement en se remettant au travail. « Et conduire les gens vers un tas de crottins, c'est de l'honnêteté, ça ?»«
C'est différent, c'était une plaisanterie. »«
Je ne vois pas en quoi... » Il laissa sa phrase en suspens lorsqu'un autre homme de pont approcha. Kaladin doutait que d'autres partagent l'étrange capacité de Rock à voir Syl, et il ne voulait pas qu'on le surprenne à parler tout seul. L'homme de pont de petite taille, maigre et nerveux, s'était présenté sous le nom de Scar, bien que Kaladin ne distingue pas de cicatrice visible sur son visage. Il avait de courts cheveux noirs et des traits anguleux. Kaladin tenta d'engager la conversation avec lui, mais n'obtint aucune réponse. L'homme alla même jusqu'à lui faire un geste grossier, avant de ressortir précipitamment. « Je fais quelque chose de travers, » dit Kaladin en secouant la tête et en sautant au bas du robuste chariot.
De travers,
Syl s'avança jusqu'au rebord du chariot tout en étudiant Kaladin. Je pensais que me voir sauver ces trois-là leur redonnerait espoir, mais ils restent indifférents.
Plusieurs t'ont regardé courir tout à l'heure, dit Syl, quand tu t'entraînais avec la planche.
Ils m'ont regardé, dit Kaladin, mais ils se moquent bien d'aider les blessés. Enfin, à part Rock, et il ne le fait que parce qu'il a une dette envers moi. Même Teft n'a pas accepté de partager ses repas.
Ils sont égoïstes.
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Il souleva une pierre et chercha comment expliquer ce qu'il ressentait. Quand j'étais esclave, eh bien, je le suis toujours. Mais lors des pires moments, quand mes maîtres cherchaient à me battre jusqu'à détruire ma capacité de résistance, j'étais comme ces hommes, trop indifférent pour être égoïste. Je ressemblais à un animal. J'agissais sans réfléchir. Syl parut songeuse. Pas étonnant. Kaladin lui-même ne comprenait pas ce qu'il disait. Et pourtant, alors même qu'il parlait, il commença à comprendre où il voulait en venir. Je leur ai montré que nous pouvons survivre, mais ça ne veut rien dire. Si ces vies ne méritent pas d'être vécues, alors ils resteront toujours indifférents. C'est comme si je leur offrais des tas de sphères, mais que je ne leur donnais rien qu'ils puissent acheter avec.
« Sans doute, » répondit Syl. « Mais qu'est-ce que tu peux y faire ?»
Il reporta son regard au-delà de la plaine rocheuse, en direction du camp de guerre. La fumée des nombreux feux de cuisine de l'armée s'élevait des cratères. « Je n'en sais rien, mais je crois qu'il va nous falloir beaucoup d'autres roseaux. » Cette nuit-là, Kaladin, Teft et Rock marchaient dans les rues de fortune du camp de guerre de Sadeas. Nomon, la lune intermédiaire, brillait de son pâle éclat blanc-bleuté. Des lanternes à huile étaient suspendues à l'extérieur des bâtiments, désignant des tavernes ou des maisons closes. Les sphères pouvaient fournir une lumière plus stable et renouvelable, mais on pouvait acheter un lot de bougies ou une outre d'huile pour une seule sphère. Sur le court terme, c'était souvent la solution la moins coûteuse, surtout si l'on accrochait ses lampes à des endroits où il était possible de les voler. Sadeas n'imposait pas de couvre-feu, mais Kaladin avait appris qu'un homme de pont isolé avait tout intérêt à rester dans le dépôt de bois la nuit. Des soldats à moitié ivres, à l'uniforme taché, passaient d'un pas nonchalant, murmurant à l'oreille de prostituées ou se vantant auprès de leurs amis. Ils lançaient des insultes aux hommes de pont en éclatant de rires tonitruants. Les rues semblaient obscures malgré les lanternes et le clair de lune, et la nature désordonnée du camp, alternant édifices de pierre, cabanes de bois et tentes, créait une impression de désorganisation et de danger. Kaladin et ses deux compagnons s'écartèrent pour laisser passer un grand groupe de soldats. Leurs manteaux étaient déboutonnés et ils n'étaient que légèrement ivres.
Un soldat mesura du regard les hommes de pont, mais le fait qu'ils soient trois, dont un manche-corne musclé, suffit à le dissuader de faire davantage qu'éclater de rire et bousculer Kaladin sur son passage. L'homme sentait la sueur et la bière bon marché. Kaladin garda son calme. S'il se battait, on retiendrait sur sa paix. « Je n'aime pas ça, » dit Teft, en regardant le groupe de soldats par-dessus son épaule. « Je retourne au camp. »«
Tu vas rester, » gronda Rock.
Teft leva les yeux au ciel. « Tu crois que j'ai peur d'un gros chul comme toi ? J'y vais si je veux. Et, Teft, » dit doucement Kaladin, « on a besoin de vous. »«
Besoin. »
Ce mot produisait d'étranges effets sur les hommes. Certains prenaient la fuite quand on l'employait. D'autres devenaient nerveux. Teft semblait le désirer. Il hocha la tête, marmonnant tout bas, mais resta avec eux tandis qu'ils poursuivaient leur chemin. Ils atteignirent bientôt le dépôt de chariots. Le carré de pierre délimité par des barrières se situait près du côté ouest du camp. Il était déserté pour la nuit, et les chariots étaient disposés en longues rangées. Des chules endormies reposaient dans l'enclos tout proche, évoquant de petites collines. Kaladin s'avança prudemment, s'assurant que personne ne monte la garde, mais personne ne semblait craindre qu'on ne vole quelque chose d'aussi gros qu'un chariot au beau milieu de l'armée. Rock le poussa du coude, puis désigna les enclos à chules ombragés. Un garçon isolé était assis sur un poteau de la clôture, contemplant la lune. Les chules étaient assez précieux pour qu'on les surveille. Pauvre garçon! À quelle fréquence lui demandait-on de veiller des nuits entières pour surveiller ces bêtes léthargiques? Kaladin s'accroupit près d'un chariot, imité par les deux autres. Il désigna une rangée et Rock se mit en marche. Kaladin désigna l'autre direction et Teft leva les yeux, mais s'exécuta. Kaladin se faufila le long de la rangée du milieu. Il y avait une trentaine de chariots, 10 par rangée, mais l'inspection fut rapide. Il suffisait de passer les doigts le long de la planche arrière en quête de la marque qu'il y avait laissée. Au bout de quelques minutes à peine, une sombre silhouette rejoignit sa rangée. C'était Rock. Le manche-corne fit un geste latéral et leva 5 doigts. 5e chariot en partant du haut. Kaladin hocha la tête et se mit en mouvement. Alors même qu'il atteignait le chariot désigné, il entendit un petit cri depuis la direction où Teft était parti. Kaladin tressaillit, puis leva les yeux vers la sentinelle. Le garçon regardait toujours la lune, cognant distraitement les orteils contre le poteau voisin. L'instant d'après, Rock et un Teft penaud rejoignirent Kaladin à la hâte. « Désolé, » murmura Teft, « la montagne ambulante m'a fait sursauter. »«
Si je suis une montagne, » grommela Rock, « alors pourquoi vous ne m'avez pas entendu approcher, hein ?»
Kaladin ricana et tâta le dos du chariot indiqué, frôlant des doigts la marque en forme de X gravée dans le bois. Il prit une inspiration, puis se glissa sous le chariot sur le dos. Les roseaux s'y trouvaient toujours, liés en 20 fagots épais d'une paume chacun.
Ichi, héros de la chance, sois loué, murmura-t-il en détachant le premier fagot.
Tout est là, hein ?
Demanda Teft en se penchant, se grattant la barbe au clair de lune.
« Je n'arrive pas à croire qu'on en ait trouvé autant. On a dû arracher tous les roseaux de la plaine. »
Kaladin lui tendit le premier fagot. Sans cils, il n'en aurait jamais trouvé le tiers. Elle volait à la vitesse d'un insecte et semblait savoir intuitivement où dénicher les choses. Kaladin décrocha le dernier fagot et le tendit à Teft. Celui-ci l'attacha au premier pour en former un plus gros. Tandis que Kaladin s'activait, un tourbillon de petites feuilles blanches s'engouffra sous le chariot et forma la silhouette de Syl. Elle s'arrêta en glissant près de sa tête.
Pas de garde en vue, rien qu'un garçon dans les enclos à chules.
Sa silhouette blanc-bleutée translucide était presque invisible dans le noir.
J'espère que ces roseaux sont toujours bons, murmura Kaladin. S'ils ont trop séché,
ils feront l'affaire. « Tu t'inquiètes toujours trop. Je vous ai trouvé des bouteilles. »«
Ah oui » demanda-t-il avec un tel enthousiasme qu'il faillit se redresser.
Il se reprit avant de se cogner la tête. Syl hocha la tête.
Je vais te montrer. Je ne pouvais pas les porter. Trop lourdes.
Kaladin s'empressa de détacher les fagots restants pour les tendre à un Teft nerveux. Kaladin ressortit rapidement, puis prit deux des assemblages de trois fagots. Teft s'empara de deux autres et Rock parvint à en prendre trois en calant l'un d'entre eux sous son bras. Ils allaient avoir besoin d'un endroit où travailler sans se faire interrompre. Même si les bosselines semblaient sans valeur, Gaz trouverait un moyen de gâcher leurs efforts s'il voyait ce qui se passait.
« Les bouteilles d'abord », songea Kaladin.
Il adressa un signe de tête à Syl qui les conduisit hors du dépôt de chariots en direction d'une taverne. Elle semblait avoir été bâtie à la hâte à partir de bois de second choix, mais ça n'empêchait pas les soldats qui s'y trouvaient de s'amuser. Leur tapage poussa Kaladin à s'inquiéter que tout le bâtiment ne s'effondre. Derrière, dans un demi-tonneau hérissé d'échardes, se trouvait un tas de bouteilles d'alcool vides. Le verre était assez précieux pour que les bouteilles entières soient réutilisées, mais celles-ci étaient fendillées ou avaient le goulot cassé. Kaladin posa ses fagots, puis choisit trois bouteilles presque entières. Il les lava dans un tonneau d'eau tout proche avant de les fourrer dans un sac qu'il avait apporté à cette fin. Il reprit ses fagots et adressa un signe de tête aux autres.
« Essayez de donner l'impression de faire quelque chose de monotone, » dit-il. « Baissez la tête !»
Les deux autres acquiescèrent et ils se dirigèrent vers une route principale, portant les fagots comme s'il s'agissait d'une corvée qu'on leur avait assignée. Ils attiraient nettement moins l'attention qu'auparavant. Ils évitèrent le dépôt de bois lui-même et traversèrent l'étendue rocheuse qui servait de point de rassemblement à l'armée, avant de descendre la pente rocheuse qui menait aux plaines brisées. Une sentinelle les vit et Kaladin retint son souffle. Mais elle ne dit rien. Sans doute déduisait-elle de leur posture qu'ils avaient une raison de faire ce qu'ils faisaient. S'ils tentaient de quitter le camp, ce serait une autre histoire. Mais cette section proche des premiers gouffres n'était pas en dehors des limites. Peu après, ils approchèrent de l'endroit où Kaladin avait failli se donner la mort. Quelle différence pouvait faire quelques journées? Il se sentait un tout autre homme. Un étrange hybride de celui qu'il avait été. De l'esclave qu'il était devenu, et du misérable qu'il devait toujours tenir à distance. Il se revit debout au bord du gouffre, yeux baissés. Les ténèbres le terrifiaient encore.
Si j'échoue à sauver les hommes de pont, ce misérable reprendra de nouveau le contrôle. Cette fois, ce sera lui qui décidera.
Cette idée le fit frissonner. Il posa ses fagots près du bord du gouffre, puis s'assit. Les deux autres le suivirent avec davantage d'hésitation.
« On va les jeter dans le gouffre ?» demanda Teft en se grattant la barbe. « Après tout le mal qu'on s'est donné ?»«
Bien sûr que non !» répondit Kaladin. Il hésita. Nomon brillait d'un éclat vif, mais il faisait toujours nuit.
« Vous n'avez pas de sphère à tout hasard ?»«
Pourquoi ça ?» demanda Teft méfiant.
« Pour nous éclairer, Teft. »
Celui-ci grommela et tira une poignée de brisure de grenat.
« Je comptais les dépenser ce soir, » expliqua-t-il.
Elle brillait dans sa paume.
« Bon, » dit Kaladin en sortant un roseau.
Qu'avait dit son père à leur sujet? D'un geste hésitant, Kaladin cassa le bout duveteux du roseau, dévoilant le centre creux. Il prit le roseau par l'autre extrémité et passa les doigts tout du long en serrant très fort. Deux gouttes d'un liquide blanc laiteux tombèrent dans la bouteille d'alcool vide. Kaladin sourit de satisfaction, puis passa de nouveau les doigts tout du long. Comme rien ne sortait cette fois, il jeta le roseau dans le gouffre. Il ne voulait pas laisser de traces.
Je croyais que vous disiez qu'on n'allait pas les jeter,
l'accusa Teft. Kaladin souleva la bouteille d'alcool, seulement après en avoir tiré ça.
« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Rock en se penchant plus près, plissant les yeux.
« De la sève de bosseline, ou plutôt du lait de bosseline. Je ne crois pas que ce soit vraiment de la sève. Quoi qu'il en soit, c'est un antiseptique puissant. »«
Un anti... quoi ?»
demanda Teft. « Il fait fuir les sprènes de pourriture, » dit Kaladin.
il provoque des infections. Ce lait est l'un des meilleurs antiseptiques qui soit. Si on l'étale sur une plaie déjà infectée, il fonctionne quand même. C'était une bonne chose, car les plaies de Leighton avaient commencé à virer au rouge furieux, grouillant de sprène. Avec un grognement, Teft regarda les fagots. « Il y a beaucoup de roseaux ici. »«
Je sais, » répondit Kaladin en lui tendant les deux autres bouteilles.
« C'est pour ça que je suis content de ne pas devoir les presser tout seul. » Teft soupira, mais s'assit et détacha un fagot. Rock fit de même sans se plaindre, genoux tournés sur les côtés, pieds joints pour tenir la bouteille tandis qu'il travaillait. Un faible vent se leva et fit s'entrechoquer plusieurs des roseaux.
« Pourquoi vous vous souciez d'eux ?» demanda enfin Teft.
« Ce sont mes hommes. »«
C'est pas ce que ça veut dire, être chef de pont. »«
Ça veut dire ce qu'on décide, » répondit Kaladin, remarquant que Syl s'était approché pour écouter.
« Vous, moi, les autres. »«
Vous croyez qu'ils vont vous laisser faire ça ?» demanda Teft. « Les Palsiris et les capitaines ?»
« Vous croyez qu'ils feront assez attention à nous pour s'en apercevoir ?»
Teft hésita, puis grommela et se mit à presser un autre roseau.
« Peut-être que oui, » répondit Rock.
Il y avait une étonnante délicatesse dans les gestes du colosse tandis qu'il pressait les roseaux. Kaladin n'aurait pas cru que ses doigts épais seraient aussi prudents, aussi précis.
« Les Palsiris, ils remarquent souvent les choses qu'on préférait qu'ils ne voient pas. »
Teft grommela de nouveau, partageant visiblement son avis.
Comment êtes-vous arrivé ici, Rock ? Demanda Kaladin.
Comment un manche-corne se retrouve-t-il à quitter ces montagnes pour descendre dans les basses terres ?
Vous ne devriez pas poser ce genre de questions, gamin, protesta Teft en agitant un doigt en direction de Kaladin. On ne parle pas de notre passé.
On ne parle de rien. Dit Kaladin. Aucun de vous ne savait même comment s'appelait l'autre.
Les noms, c'est une chose, grommela Teft. Le passé, c'est différent.
Pas de problème, répondit Rock. Je veux bien parler de cette chose.
Teft marmonna tout bas, mais se pencha pour écouter parler Rock.
Mon peuple n'a pas de lame d'éclat, dit Rock de sa voix basse et grondante.
« Ça n'a rien d'inhabituel, » dit Kaladin. « En dehors d'Aletkar et de Jacques Eved, peu de royaumes possèdent beaucoup de lames. »
C'était un motif de fierté au sein des armées.
« Cette chose n'est pas vraie, » répondit Rock. « Taïlena a 5 lames et 3 cuirasses, qui appartiennent toutes aux gardes du roi. Les Selayans ont leur part de cuirasses comme de lames. D'autres royaumes, comme Erdas, ont une seule lame et une cuirasse, qui se transmet par la lignée royale. Mais nous, les Unkalaki, nous n'avons pas un seul éclat. Beaucoup de nos Nuatoma, cette chose est la même que vos Palsiris, sauf que leurs yeux ne sont pas clairs.
Comment est-ce qu'on peut être Palsiris sans avoir les yeux clairs ? Demanda Teft, songeur.
En ayant les yeux sombres, dit Rock, comme si c'était évident. Nous ne choisissons pas nos chefs comme ça, mais n'interrompez pas l'histoire.
Il pressa un autre roseau et jeta l'enveloppe sur une pile près de lui.
Les Nuatoma, ils voient notre absence d'éclat comme une grande honte. Ils veulent terriblement ces armes. Ils croient que le premier Nuatoma à obtenir une lame d'éclat deviendra roi. Une chose que nous n'avons pas eue depuis longtemps. Aucun pic ne combattrait un autre pic où un homme aurait une de ses lames sacrées.
Alors vous êtes venu en acheter une ? Demanda Kaladin.
Aucun porte-éclat ne vendrait son arme. Chacune était une relique distincte, prise à l'un des radieux enfuis après leur trahison. Rock éclata de rire.
Acheter ? « Non, nous ne sommes pas aussi idiots. Mais mon doigt, Thomas, il connaissait votre tradition, hein ? Elle dit que si un homme tue un porte-éclat, il peut prendre la lame et la cuirasse et qu'elles lui appartiennent, et donc mon nou à Thomas et sa maison. On a fait une grande procession et on est descendu chercher et tuer un de vos porte-éclats. »
Kaladin faillit éclater de rire.
« J'imagine que ça s'est révélé plus difficile que prévu. »«
Mon noix Thomas n'était pas idiot, » dit Rock sur la défensive. « Il savait que cette chose serait difficile, mais votre tradition, elle nous donne de l'espoir, vous voyez. De temps en temps, un noix Thomas courageux descend pour combattre un porte-éclat en duel. Un jour, un d'entre eux gagnera et nous aurons des éclats. »
« Peut-être, » dit Kaladin en jetant un roseau vide dans le gouffre, « à supposer qu'ils acceptent un duel à mort avec vous. »«
Oh, ils acceptent toujours, » dit Rock en riant. « Le noix Thomas apporte beaucoup richesse et promet tous ses biens aux vainqueurs. Vos pâles iris, ils peuvent pas ignorer ça. Tuer un Unkalaki sans lame d'éclat, ils voient pas cette chose comme difficile. Beaucoup noix Thomas sont morts. Mais c'est pas grave, nous finirons par gagner.
Et par obtenir un ensemble d'éclats, dit Kaladin. Aletkar en possède des dizaines.
Hein, c'est un début, dit Rock en haussant les épaules. Mais mon noix Thomas a perdu, alors je suis homme de pont.
Attendez, dit Teft. Vous êtes venu jusqu'ici avec votre clarissime, et une fois qu'il a perdu, vous avez rejoint une équipe de pont.
« Non, non, vous voyez pas, » dit Rock. « Mon noix, Thomas, il a défié le haut prince Sadeas. C'est bien connu qu'il y a beaucoup porte-éclats ici dans les plaines brisées. Mon noix, Thomas, a trouvé plus facile de combattre d'abord l'homme qui n'avait que la cuirasse, puis de gagner la lame après. »«
Et ensuite ?» demanda Teft.
« Quand mon noix, Thomas, a perdu contre haut prince Sadeas, « nous sommes tous devenus Aloï. »«
Donc, vous êtes esclave ?» demanda Kaladin, levant la main pour tâter les marques à son front.
« Non, nous n'avons pas cette chose, » dit Rock. « J'étais pas esclave de mon noix Thomas. J'étais sa famille. »«
Sa famille ?» s'exclama Teft. « Kelek, vous êtes un pâle iris !»
Rock éclata à nouveau d'un rire sonore, à gorge déployée. Kaladin sourit malgré lui. Il lui semblait n'avoir entendu personne rire ainsi depuis longtemps.
« Non, non, j'étais seulement Umartia, son cousin, vous diriez ça. »«
Mais tout de même, vous étiez un parent. »«
Sur les pics, » dit Rock, « les parents d'un clarissime sont ses serviteurs. »
« Qu'est-ce que c'est que ce système ?» ronchonna Teft. « Vous devez être le serviteur de votre propre famille, sainte bourrasque. Je préférerais mourir, je crois. »«
C'est pas si terrible, » répondit Rock. « Vous ne connaissez pas ma famille, » déclara Teft en frissonnant.
Rock s'esclaffa de nouveau.
« Vous préférez servir quelqu'un vous ne connaissez pas ?» Comme c'est Sadeas, un homme qui n'a pas de lien avec vous.
Il secoua la tête.
C'est Baster. Vous avez trop d'air ici. Ça rend votre esprit malade.
Trop d'air ? Demanda Kaladin.
Oui, dit Rock.
Comment peut-on avoir trop d'air ? Il y en a partout.
Cette chose, elle est difficile à expliquer.
Rock parlait un bon aléti, mais il oubliait parfois d'ajouter des mots courants. D'autres fois, il s'en souvenait et formulait précisément ses phrases. Plus il parlait vite, plus il oubliait d'inclure des mots.
« Vous avez trop d'air, » dit Rock. « Venez au pic, vous verrez. »
« J'imagine, » répondit Kaladin en jetant un coup d'œil à Teft qui haussa les épaules. « Mais vous vous trompez sur un point. » Vous avez dit que nous servions quelqu'un que nous ne connaissons pas. Eh bien, moi, je connais le clarissime Sadeas. Je le connais bien.
Rock haussa un sourcil.
Arrogant, dit Kaladin. Revanchard, cupide, corrompu jusqu'à la moelle.
Rock sourit.
Oui, je crois vous avez raison. Cet homme ne fait pas partie des meilleurs Parlziris.
Il n'y en a pas de meilleurs, Rock. Ils sont tous pareils.
Ils vous ont fait beaucoup de mal, alors.
Kaladin haussa les épaules, car la question découvrait des plaies pas encore cicatrisées. Enfin bref, votre maître a eu de la chance.
D'être tué par un porte-éclat ?
De ne pas gagner, répondit Kaladin, et de ne pas découvrir comment on l'avait piégé. On ne l'aurait pas laissé partir avec la cuirasse de sa déesse.
N'importe quoi, intervint Teft.
La tradition est le témoin aveugle dont ils se servent pour nous condamner, dit Kaladin. C'est la jolie boîte dont ils se servent pour emballer leurs mensonges. Ça nous oblige à les servir.
Teft serra la mâchoire.
J'ai vécu beaucoup plus longtemps que vous, gamin. Je sais des choses. Si un homme ordinaire tue un porte-éclat ennemi, il devient un pâle iris. C'est comme ça que tout fonctionne.
Il laissa la dispute s'éteindre d'elle-même. Si les illusions de Teft l'aidaient à se sentir mieux dans le chaos de cette guerre, qui était Kaladin pour l'en dissuader? Donc, vous étiez serviteur, dit Kaladin à Rock. Dans la suite d'un clarissime, quel genre de serviteur? Il s'efforça de chercher le mot adéquat, se rappelant l'époque où il interagissait avec Wistiov ou Rochon. Valet de pied? Majordome? Rock éclata de rire.
J'étais cuisinier. Mon Nuatoma ne voulait pas descendre dans les basses sans son propre cuisinier.
Votre nourriture ici, elle a tellement d'épices que vous ne pouvez rien goûter d'autre. Autant manger des pierres saupoudrées de poivre.
Vous pouvez parler de nourriture, vous,
dit Teft en se renfrognant.
Un manche-corne.
Kaladin fronça les sourcils. Pourquoi est-ce qu'on donne ce nom à votre peuple, d'ailleurs?
Parce qu'ils mangent les cornes et la carapace des créatures qu'ils attrapent, répondit Teft.
L'extérieur. Rock sourit d'un air nostalgique.
Ah, mais ça a si bon goût.
Vous mangez vraiment la carapace? Demanda Kaladin.
Nous avons des dents très fortes, dit fièrement Rock. Mais voilà, vous connaissez mon histoire. Le clarissime Sadeas, il ne savait pas trop quoi faire avec majorité d'entre nous. Certains ont été nommés soldats, d'autres ont servi dans son foyer. Je lui ai préparé un repas et il m'a envoyé dans les équipes de pont.
Rock hésita.
J'avais un peu amélioré la soupe.
Amélioré ? Demanda Kaladin en haussant les sourcils. Rock sembla gêné.
Vous voyez, j'étais en colère pour la mort de mon Nuatoma. Alors je me suis dit, ces bastères, leur langue est brûlée par la nourriture qu'ils mangent. Ils n'ont pas de goût et...
Et quoi ? Demanda Kaladin.
Crottin de Chul, dit Rock. Apparemment, le goût est plus fort que j'y pensais.
Attendez, dit Teft. Vous avez ajouté du crottin de Chul à la soupe du haut prince Sadeas?
Oui, répondit Rock. En fait, j'ai mis cette chose dans son pain aussi, et je l'ai utilisé comme garniture sur la tranche de porc. Le crottin de Chul, il a beaucoup d'usage, comme j'ai découvert.
Teft éclata de rire d'une voix sonore. Il tomba sur le flanc, tellement hilar que Kaladin craignit qu'il ne roule droit dans le gouffre.
« Mange-corne !» dit enfin Teft. « Je vous dois un verre. »
Rock sourit. Kaladin secoua la tête pour lui-même, stupéfait. Soudain, tout lui sembla clair.
« Quoi ?»
demanda Rock, remarquant apparemment son expression.
« C'est de ça ?» que nous avons besoin, dit Kaladin. Ça, c'est exactement ce qui me manquait.
Rock hésita.
Crottin de Chul, c'est de ça vous avez besoin?
Teft partit d'un nouveau fou rire.
Non, dit Kaladin, c'est...
Je vais vous montrer. Mais d'abord, il nous faut cette sève de Bosseline. Ils étaient à peine venus à bout du premier fagot et ses doigts lui faisaient déjà mal d'avoir pressé les roseaux.
Et vous, Kaladin ? Demanda Rock. Je vous ai dit mon histoire. Vous voulez me dire la vôtre ? D'où viennent ces marques sur votre front ?
Ouais, dit Teft en s'essuyant les yeux. De qui avez-vous amélioré la nourriture ?
Je croyais que c'était tabou d'interroger un homme de pont sur son passé, observa Kaladin.
Vous avez demandé à Rock de partager le sien, gamin, fit remarquer Teft. Ce n'est que justice.
Donc si je raconte mon histoire, ça veut dire que vous raconterez la vôtre.
Teft se renfrogna aussitôt.
Écoutez, je vais pas... J'ai tué un homme, annonça Kaladin.
Sa réponse réduisit Teft au silence. Rock dressa l'oreille. Syl observa Kaladin, le regardait toujours avec intérêt. C'était curieux de sa part. En temps normal, son attention faiblissait rapidement.
Vous avez tué un homme, dit Rock. Et après cette chose, on vous a fait esclave. Les châtiments pour le meurtre n'est pas la mort d'habitude.
Ce n'était pas un meurtre, dit doucement Kaladin, songeant à l'homme barbu et négligé qui lui avait posé les mêmes questions dans le chariot d'esclaves. En fait, quelqu'un de très important m'a remercié pour ça. Il se tut.
Et ? Demanda enfin Teft.
Et ? Dit Kaladin, baissant les yeux vers un roseau. Nomon se couchait à l'ouest et le petit disque vert de Mishim, la dernière lune, se levait à l'est.
Et il s'avère que les pâles iris ne réagissent pas très bien quand on refuse leur cadeau.
Les autres attendirent qu'ils poursuivent, mais Kaladin se tut, travaillant à ses roseaux. Il était stupéfait qu'il soit si douloureux de se rappeler ces événements survenus dans l'armée d'Amaram. Soit les autres perçurent son humeur, soit ils eurent le sentiment qu'il en avait dit assez, car chacun se remit à l'ouvrage sans chercher à en apprendre davantage.